On tenait tout d'abord à remercier Sandra Francello pour avoir pris vraiment à bras le corps l'organisation de cette journée très rapidement, très efficacement. Et donc si on est réunis ici aujourd'hui, c'est vraiment grâce à elle. Merci beaucoup. Donc lorsque Sandra nous a proposé d'intervenir lors de ces journées d'hommage, il nous a assez semblé évident, Anaïs et moi-même, de proposer une intervention commune. Donc toutes deux, nous avons été étudiantes de Bruno Martinelli dès la maîtrise, et ce jusqu'à la fin de thèse de doctorat, thèse de doctorat que j'ai soutenue pour ma part en 2009 et pour Anaïs en 2011. Donc en réfléchissant ensemble sur les éléments qui ont marqué notre formation auprès de Bruno Martinelli, la question du terrain évoquée à plusieurs reprises ce matin, de l'observation fine des processus et des pratiques sont vite apparus comme des éléments essentiels. En effet, Bruno Martinelli et Pascal l'a rappelé ce matin, il ne nous a guère imposé de cadre théorique rigide, mais il nous a transmis sa sensibilité, surtout sa rigueur ethnographique. Le second point important, qui nous a permis, Anaïs et moi-même, des échanges soutenus tout au long de la préparation de nos thèses, c'est un objet commun, celui des dynamiques patrimoniales, vers lequel Bruno Martinelli nous a orientés puis dirigés. Donc après une première étude réalisée dans le nord-ouest du Burkina Faso sur les savoirs dansés et leur transmission en contexte rural, Bruno Martinelli m'encouragea à envisager les reformulations contemporaines de ces pratiques et de ces savoir-faire dans le cadre de spectacles chorégraphiques proposés par les nombreuses troupes professionnelles de danse dites traditionnelles en contexte urbain. À travers l'étude de ces recompositions chorégraphiques, ce sont les multiples mises en scène du passé et de la tradition qui se déploient dans le Burkina Faso contemporain qu'il m'a été permis d'observer.
Alors de mon côté, alors que j'engageais en 2005 un Master 1 sur un bilan critique des études anthropologiques sur l'identité seule, Bruno Martinelli nous a encouragés dans le cadre d'un cours de Master d'anthropologie des sociétés africaines à travailler sur les dossiers de candidature de 5 pays africains à la liste pour être inscrit à la liste du chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Et dans ce cadre, j'ai choisi de travailler sur le dossier du Mali, qui était une proposition de classement de fête de transhumance PEUL, puisque ça rejoignait mes préoccupations de Master 1. Et à la suite de mon Master 1, sur les encouragements de Bruno Martinelli, j'ai choisi de faire mon premier terrain de Master 2 sur ces pratiques festives qui venaient d'être déclarées dans le patrimoine mondial de l'humanité. C'est devenu ensuite un sujet de thèse et je ne peux que remercier Bruno Martinelli pour avoir compris avant moi tout l'intérêt qu'il y avait à observer un processus de mise en patrimoine et les polémiques que ça suscite dans le temps de son déroulement et de sa réalisation et non a posteriori comme c'est le cas souvent dans les processus de mise en patrimoine. Mais ce n'est pas de nos travaux qu'on voudrait parler aujourd'hui, mais plutôt envisager certaines des facettes du travail entrepris par Bruno Martinelli sur la question du patrimoine en Afrique. Alors, ce sont la question du patrimoine et des patrimonialisations, ce sont des objets bien documentés depuis assez longtemps pour l'Europe, mais dans les années 2000, c'était des sujets qui commençaient à émerger pour l'Afrique. Donc, il y a parmi les ouvrages importants, il y avait le livre de Gaetano sur la mémoire ethnographique en pays de Gombe, publié en 2003, qui avait fortement intéressé Bruno Martinelli. Je crois d'ailleurs qu'il avait été invité à présenter des travaux ici. Et donc, en me poussant à nous intéresser au thème du patrimoine et lui-même en faisant un objet de recherche, il a su se saisir de l'engouement scientifique nouveau pour cette thématique en Afrique et de l'intérêt qu'il représentait pour questionner à nouveau près les enjeux politiques de la représentation des identités collectives et de la mémoire dans les sociétés africaines contemporaines. Donc bien que son investissement dans la réflexion sur le patrimoine et les patrimonialisations ait été soutenu, Bruno Martinelli a très peu publié sur cette question. Peut-être parce qu'à la même période, il a été pris dans d'autres chantiers, que c'était peut-être un objet plus périphérique pour lui. Il a été notamment engagé dans la NRCISA, comme ça a été dit ce matin, avec Pascal Maizy. Puis il y a eu ensuite ce gros chantier de la sorcellerie en Centrafrique. Mais ça fait quand même partie de ces réflexions au cours des années 2000. Alors, compte tenu de l'absence d'articles scientifiques sur le thème du patrimoine, c'est à partir du souvenir des discussions, principalement sur nos recherches, des séminaires auxquels nous avons assisté et surtout de deux rapports qu'il a réalisés en 2006 et en 2007 pour l'UNESCO sur le patrimoine en Centrafrique, que nous avons, à partir de ces éléments, que nous avons fondé notre propos. Alors, ces journées d'hommage constituent pour nous en effet un moyen de valoriser, enfin de présenter ces rapports inédits et méconnus sur le patrimoine centrafricain. Alors, notre propos est évidemment assez lacunaire et reflète en grande partie la relation personnelle que nous avons eue avec Bruno Martinelli en tant que directeur de thèse. Et on a conscience qu'il nous manque toute une partie des éléments concernant la première partie de sa carrière qui ont été rappelés par Christian Bromerger ce matin pour vraiment reconstituer toutes les influences qui ont pu alimenter sa conception du patrimoine et son approche du patrimoine en Afrique. Donc peut-être que suite des deux échanges tout à l'heure, on pourra... compléter. Donc, il nous a semblé important de commencer dans un premier temps par restituer les travaux de Bruno Martinelli sur le patrimoine à l'intérieur de sa trajectoire d'enseignant-chercheur. En effet, il n'hésitait pas à proposer des enseignements sur ses nouveaux objets de recherche. Et dès 2006-2007, il a fait du patrimoine la thématique générale du cours de Master 1 intitulé « Objets d'anthropologie ». Donc, pour les non-exois, ce cours dont les axes changent régulièrement pour objectif de s'arrêter sur une thématique importante de l'anthropologie contemporaine autour de laquelle les différents enseignants-chercheurs du département sont invités à réexaminer leurs travaux. Donc de 2006 à 2009, Bruno Martinelli coordonna cet enseignement dans lequel il s'attachait à la fois à fournir un cadre épistémologique sur le patrimoine qu'il présentait aux étudiants comme une fausse évidence et qu'il articulait à différentes études de cas sur les dynamiques patrimoniales en Europe, en Asie, en Océanie ou en Afrique, selon les interventions de chacun. Donc, à la lecture du diaporama qui accompagne l'introduction à ce cours de master, on constate très rapidement que son objectif était de révéler aux étudiants le caractère construit du patrimoine et les projets qui s'y rattachent. Il commençait par retracer l'histoire de la notion en Europe, principalement en France, et son passage progressif de la sphère privée à la sphère publique, puis proposait de s'intéresser au processus de sélection et de classement. Il encourageait les étudiants à considérer le patrimoine comme une construction sociale, un processus par lequel des groupes sélectionnent des symboles de l'identité collective. Le patrimoine était alors défini comme, je cite, une construction normative de la représentation de soi, une institution idéologique et théorique à référence identitaire. Alors, bien qu'il ait insisté dans ses travaux sur les patrimoines ordinaires, qu'il qualifiait aussi de patrimoine méconnu ou de patrimoine de la vie quotidienne, comme son travail en Centrafrique le montre, il semble que pour lui, la reconnaissance étatique et institutionnelle des patrimoines passe par le classement. Ce qui explique peut-être ces différentes expertises pour l'UNESCO. En effet, le statut patrimonial, dans son enseignement de master, était présenté comme étant complété par l'inscription, qui définissait comme un acte officiel de qualification qui établit une séparation et une hiérarchisation parmi les objets, en décernant des labels. Et il présentait donc l'UNESCO comme une institution participant à la normalisation de ces procédures d'inscription aujourd'hui dans le monde. mais il était également attaché à transmettre à ses étudiants un regard critique sur ces processus normatifs de production de la valeur patrimoniale et de la valeur esthétique. Et je me souviens notamment qu'il nous conseillait la lecture de l'article de James Clifford, Muséologie et contre-histoire, voyage sur la côte nord-ouest, publié en 92 dans Gradiva, pour souligner la possible remise en cause du système art-culture défini par l'Occident et qu'on pouvait étendre au cadre normatif proposé par l'Union. J'ai toujours regretté que Bruno Martinovic n'ait pas eu le temps de publier sur la notion de patrimoine à partir de ses travaux, tels qu'il avait fait, par exemple, sur le concept de style ou sur l'esthétique. Mais on peut cependant, à partir de la relecture de ces rapports de 2006 et 2007 pour l'UNESCO, retenir quelques éléments relatifs à son approche du patrimoine. Donc ces deux importantes études, qu'il réalisa en collaboration avec des cadres du ministère de la Culture centrafricaine et des doctorants centrafricains, mais aussi des doctorants ici, Andrea y a participé, concernent l'une le patrimoine et la culture matérielle et l'autre le patrimoine esthétique et artistique. Donc, pour cette présentation, on va surtout se concentrer sur l'introduction et la conclusion de ces rapports qu'il a lui-même rédigés et on ne présentera pas les études des différents collaborateurs. Ces travaux s'inscrivent dans une anthropologie appliquée, mais ne constituent aucunement une recherche au rabais. Le cadrage théorique y conserve une importance centrale, comme les descriptions ethnographiques et Pascal Schumacher a rappelé l'importance qu'il donnait aux descriptions ethnographiques. Donc, à leur lecture, on constate que l'intérêt de Bruno Martinelli pour le patrimoine s'inscrivait dans la continuité d'une réflexion plus globale sur la perception de l'attachement aux valeurs traditionnelles, aux gestes, aux techniques saisies à partir de pratiques ordinaires telles que le travail artisanal. Le patrimoine dans son travail est en fait traité dans une perspective moussienne de fait social total. Dans le rapport de 2007, il rappelait l'intérêt de l'objet patrimonial qui, je cite, conduit à traiter de représentations et de comportements qui touchent au plus intime des valeurs essentielles de la société. Le patrimoine présente une vision du monde. Donc, il constitue à ce titre une nouvelle voie pour élargir la réflexion sur les constructions identitaires en prêtant attention aux usages sociaux des objets, mais aussi aux expressions gustatives, visuelles, gestuelles, dans des contextes d'identification et d'appréciation. Donc, dans son approche du patrimoine, comme dans celle de tout autre fait social, Bruno Martinelli était avant tout attentif aux paroles et aux gestes des acteurs. Pour lui, je cite, aborder le patrimoine sous l'angle de la réflexivité a pour conséquence de se mettre à l'écoute des paroles et des discours des acteurs, observateurs de leurs propres pratiques et de celles et ceux qu'ils considèrent comme les autres. Dans ce propos, on retrouve son attachement à une ethnographie au plus près des conceptions et des représentations des acteurs, une ethnographie qui refuse tout regard succombant, et on constate aussi que pour lui, le patrimoine ne pouvait être appréhendé que dans la relation avec le patrimoine des autres et dans les échanges. Le patrimoine n'est donc pas abordé d'un point de vue abstrait et théorique, mais comme une pratique à décrire et à analyser pour en saisir le sens, en s'attachant au contexte d'interaction entre individus et groupes, au croisement des échelles, au processus de diffusion, de circulation et de changement. L'un des autres points importants de son étude du patrimoine, intimement lié aux recherches sur le savoir-faire, était la question de la transmission. Alors, loin d'une conception figée, la transmission des savoir-faire et la construction des patrimoines était abordée dans son travail sous l'angle des circulations et des transformations. Et c'est là qu'apparaît une réflexion importante sur la tradition qu'il présentait comme un support d'innovation. Dans son rapport de 2006, quel que soit le domaine étudié, la fabrication de pirogues, la préparation culinaire du coco, il présente la tradition comme un tremplin de réflexion et d'action. Et comme le pensait Marcel Mauss, la tradition ne saurait être conçue comme une pure mémoire qui se déroulerait par mouvement inertiel, une sorte de tendance qu'on va tout enregistrer. Au contraire, Bruno Martinelli défendait l'idée selon laquelle il n'y a pas de culture, pas d'innovation, sans référence et support de tradition, quelle que soit l'interprétation qui en est donnée. Donc, les traditions sont envisagées comme constitutives du capital de connaissances indispensable au processus de transmission et de transition. Donc, étonnamment, dans son rapport de 2007, il n'hésite pas à utiliser le terme de patrimoine vivant pour sortir du dualisme tradition-modernité, ne permettant pas, selon lui, de rendre compte de la manière dont s'effectuent les changements culturels et de la dimension contemporaine de la sélection des objets du passé. Donc, sans distinguer patrimoine matériel et immatériel, qui sont inextricables dans ses travaux de recherche, la notion de patrimoine telle qu'il employait recouvre un sens large. Et on peut constater une certaine ambivalence dans son travail quant à la centralité et à la discussion qu'il entretient avec la notion de patrimoine telle que, enfin, les notions de patrimoine telles que définies par l'UNESCO, et notamment la notion de patrimoine culturel immatériel. Alors, cette ambivalence est certainement due au fait que les matériaux sur lesquels on s'appuie sont des rapports destinés à l'UNESCO, mais déjà dans ses enseignements, il y avait une centralité de l'UNESCO dans sa perception, dans son approche du patrimoine. Alors, il faudrait peut-être lire plus attentivement ces textes pour essayer d'analyser de manière chronologique l'apparition de la notion de patrimoine et éventuellement les inflexions qui donne sur le patrimoine au cours de son emploi, et surtout les liens qu'il fait avec les concepts de style, d'esthétique ou de tradition, puisqu'il est fait constamment dialoguer dans ses écrits. Et lors d'un séminaire intitulé « Style, identité, patrimoine » qu'il réalisa à la MSH en novembre 2010, il soulignait combien style, identité et patrimoine ne se surimposent pas, mais se rencontrent. Le patrimoine, on l'a dit, pour lui, fait appel à la notion d'identité. Il est un support, une ressource mobilisant le style. Et Bruno Martinelli, à la suite de Bourbourant, définissait le style comme la manière propre à une collectivité d'affirmer et de marquer valeurs guerrières. L'étude du style lui permettait de faire intervenir dans le jugement d'appréciation le substrat sensoriel, gestuel et rythmique qui structure la manière d'être, d'agir, de se représenter le monde, propre à chaque groupe. Et la notion de style est ainsi envisagée comme un fait de reconnaissance, d'identification et d'appréciation collective. Et dans ses travaux, Bruno Martinelli s'intéressait particulièrement à la manière dont les éléments de distinction s'adaptent au changement social, sont instrumentalisés et manipulés à des fins diverses pour servir de marqueur emblématique à un groupe ou à un État. Et c'est là qu'intervient la notion de patrimoine comme processus d'institutionnalisation et de reconnaissance de ses différences et de ses singularités. Et on pourrait presque dire que le patrimoine, dans son travail, devient un processus de reconnaissance du style propre à chaque société. Les parures, les danses, les objets, les poèmes constituent un éventail d'éléments stylistiques servant, dans cette perspective, de support à des projets patrimoniaux. Et il insistait par ailleurs dans son appréhension du style comme dans celle du patrimoine, sur l'importance de l'analyse des transformations et des continuités qui ne peuvent être saisies sans une prise en compte des dynamiques du local et du global et des échanges. Donc, l'étude des patrimonialisations, qu'il présentait comme une entreprise polémique, moderne et contemporaine, a donc été pour lui un nouvel objet d'étude, lui permettant de prolonger sa réflexion sur le style, l'identité et la tradition. Et alors que les critiques postmodernes et postcoloniales sur l'usage et la notion d'avenir, d'identité, de tradition et sur la méthode même de l'ethnographie ont entraîné une remise en question profonde de l'anthropologie africaniste et de l'anthropologie en général, le thème du patrimoine qui a émergé comme enjeu politique et culturel important sur le continent africain à partir de l'année 90-2000 peut être vu comme une manière d'assurer continuité de ses travaux de recherche tout en les renouvelant. Et cette continuité est étroitement liée à sa conception de la discipline, où l'ethnographie fine des pratiques doit être au service d'une description, d'une interprétation des cultures en transformation et dans leur contexte, autant que d'une mise en comparaison permettant de répondre au projet universaliste de connaissance de l'homme. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans son engagement pour une anthropologie du patrimoine, qui, au-delà de la recherche fondamentale, a toujours été connectée à des activités d'expertise pour l'UNESCO.
Et c'est sur cette posture d'expert, justement, et plus précisément sur un engagement soutenu en République centrafricaine, dans la mise en œuvre de projets de connaissance et de valorisation du patrimoine matériel et esthétique, que nous avons souhaité clore cette présentation. Donc déjà dans son enseignement sur le patrimoine, Bruno Martinelli insistait largement sur les logiques d'appropriation et d'expropriation des objets, en pointant le problème des objets d'origine non européenne dans les collections nationales des pays européens. Je retiens d'une discussion qui a eu lieu après sa première visite au musée du Quai Branly en 2006, un agacement et même une colère certaine vis-à-vis de l'énorme tour de verre qui est dénommée la tour musique, qui traverse les 5 niveaux du bâtiment et dans laquelle sont ni conservés ni exposés 8700 instruments de musique, dont 4250 proviennent du continent africain. L'indignation de Bruno Martinelli face à cette tour concernait plus particulièrement le paradoxe entre les dizaines de harpes zandé placées côte à côte sur ces étagères parisiennes et l'absence de cet instrument pourtant central dans le patrimoine musical centrafricain au musée national Barthélemy Bouanda de Bangui. Ces questionnements autour de la restitution, de la réappropriation, mais aussi de la connaissance et de la reconnaissance de certains patrimoines furent au centre donc des deux rapports qu'il coordonna en 2005 et 2007 pour l'UNESCO en République centrafricaine. Les recherches anthropologiques que contiennent ces rapports sont articulées à un ensemble de recommandations, exercice oblige, mais ces recommandations dans ces rapports coordonnés par Bruno Martinelli prennent plus la forme de réflexion et de questionnement sur les dynamiques patrimoniales plutôt que des recettes toutes faites pour inventorier ou valoriser le patrimoine culturel centrafricain. Deux axes de réflexion nous ont semblé importants avec Anaïs, et donc c'est sur ces deux axes de réflexion que je vais m'atteler désormais. Le premier axe de réflexion qui est contenu dans ces deux rapports, c'est une réflexion sur la mémoire, sur les usages du passé et plus précisément sur le rôle que peut jouer une réflexion sur le patrimoine dans la construction d'une citoyenneté commune en contexte de sortie de crise. Le patrimoine est avant tout présenté ici comme une base de connaissances partagées nécessaires aux dynamiques d'innovation et de changement. Dans ce contexte, Bruno Martinelli insiste largement sur l'importance de mener une interrogation sur les enjeux locaux de la conservation. On doit, écrit-il, se demander ce que signifie le choix culturel, social et politique de conserver. Prenant l'exemple des récits mythiques et historiques qui circulent dans l'univers de la forge à Bangui, il insiste sur le fait que ces récits ne sont pas conservés par nostalgie pour le passé, mais plutôt pour leur signification éthique et idéologique dans le contexte de l'artisanat urbain contemporain. Cet exemple illustre bien l'un des partis pris défendus par Bruno Martinelli tout au long de ces deux rapports. La conservation, indique-t-il, est un processus sélectif qui répond à des enjeux politiques, sociaux et économiques du présent. Dès lors, l'important n'est pas de mettre en place une politique patrimoniale qui chercherait à préserver le maximum de savoir, de pratiques et d'objets du passé, mais plutôt de se mettre à l'écoute des acteurs et de comprendre leurs désirs et leurs besoins. En effet, indique-t-il, l'héritage n'a de sens que dans la mesure où il est désiré, accepté et assumé dans le cadre de préoccupations et de motivations présentes. Pour appuyer ce propos et rendre compte de l'inadéquation d'un certain regard ethnocentrique sur l'effet de conservation, il fait appel à Le Roi Bourang et à la métaphore du train. Passager des dernières plateformes, indique-t-il, Donc, les chercheurs, passagers des dernières plateformes du train, voient passer devant eux les bagages de tradition dont les hommes se débarrassent au fur et à mesure de leur avancée technologique. Et il leur faut faire des choix afin de savoir ce qu'il faut recueillir et préserver. Ainsi, rappelle Bruno Martinelli, il est impossible de tout récupérer. Et le patrimoine culturel est le produit de ces choix difficiles et polémiques. Dans ce contexte, l'oubli, évoqué à différentes reprises dans ses rapports, tient un rôle essentiel. Chaque milieu, indique-t-il, sélectionne ce qui doit être transmis aux nouvelles générations. Il sélectionne sans doute par omission, mais aussi de manière consciente, ce qui peut être oublié pour ne pas avoir à surcharger le bagage de survivance. Aussi, conclut-il, si la question du patrimoine se pose en matière de sélection et de choix, elle doit prendre en compte les critères des acteurs, des concepteurs, des usagers et des détenteurs. Donc, ce plaidoyer pour une patrimonialisation raisonnée et sensible aux enjeux présents s'incarne dans la mise en avant de certains savoir-faire et esthétiques partagés, et je pense notamment au patrimoine culinaire, présent à la fois dans le rapport sur le patrimoine matériel et dans celui traitant du patrimoine esthétique. On en profite avec Anaïs pour noter que cette recherche sur le patrimoine culinaire a été menée en étroite collaboration avec Valérie Blandine-Tanga, qui est une de ses doctorantes centrafricaines et qui malheureusement n'est pas là avec nous aujourd'hui. Donc, mettre en avant ces patrimoines ordinaires, comme ces patrimoines alimentaires, c'est avant tout documenter l'intimité des sociétés. Ici est défendue une vision d'un patrimoine non pas spectaculaire, extraordinaire, mais à l'inverse ordinaire, banal, mais non moins essentiel pour les acteurs locaux. Et on retrouve à la lecture de ces rapports toute la malice de Bruno Martinelli qui s'investit dans une étude à destination de l'UNESCO, tout en ne reprenant pas à son compte la conception dominante du patrimoine qui existe au sein de l'institution. Ainsi, si on peut avoir l'impression d'une certaine centralité de l'UNESCO dans son enseignement et dans sa pratique d'expertise, il n'a cessé de s'intéresser aux pratiques artisanales, aux savoir-faire et aux techniques les plus quotidiennes et souvent dénuées du caractère exceptionnel recherché par l'institution internationale. Le second point saillant de ces rapports, sur lequel on a souhaité s'arrêter, concerne l'articulation entre patrimoine et circulation culturelle. Bruno Martinelli, dans ses rapports, fait appel à la notion d'objet frontière, théorisée par Starr et Griesmann, et à l'idée qu'un cadre coopératif peut émerger au sein de projets réunissant des acteurs appartenant à des mondes sociaux différents. En appliquant au patrimoine ce statut d'objet frontière, il insiste sur le fait, je le cite, que s'engager dans la voie de la patrimonialisation implique pour chaque acteur de garder son identité, autrement dit de participer et de collaborer à un projet, sans adhérer nécessairement aux seuls objectifs et intérêts institutionnels, fût-il scientifique, mais chacun des acteurs doit réaliser ses propres objectifs en gardant ses propres points de vue et sa propre vision du monde. Donc selon ce programme, le patrimoine devient un espace de débat où les différents regards, mais aussi les différents savoirs, peuvent se confronter et se croiser. Il s'agit ici, indique-t-il, d'éviter le piège de la charité patrimoniale, tout autant que celui de la gestion unique de certains objets par les marchands d'art occidentaux. En définitive, cette approche permettrait d'envisager le patrimoine à l'usage et de voir comment il se partage, et il signale entre parenthèses dans les deux sens du terme, entre des processus d'imposition descendants portés par des intermédiaires sociaux et des processus ascendants provenant d'acteurs contextualisés et volontaristes qui conçoivent les objets comme vecteurs de mémoire, d'identité et de projet. Notons cependant qu'il ne s'agit pas pour Bruno Martinelli de défendre une vision irénique du patrimoine ou de reprendre simplement la formule de la patrimonialisation bottom-up défendue par l'UNESCO. Avec le recours à la notion d'objet frontière, il insiste tout autant sur la nécessité, mais aussi sur la difficulté à instaurer le patrimoine en espace de friction menant à une possible collaboration. Il prend l'exemple des objets d'art traditionnels centrafricains et montre que les conditions ne sont absolument pas remplies au jour d'aujourd'hui pour que ces objets s'approchent de cette posture d'objet frontière. Du côté de l'Europe, indique-t-il, une possible collaboration est rendue caduque par une posture esthétisante dédaigneuse des valeurs autres que celles qu'elle a forgées. Et du côté de la Centrafrique, le déficit de connaissances sur ces objets qui ont disparu depuis longtemps du territoire amène à une insuffisance de patrimonialisation, voire, indique-t-il pour le cas de la Centrafrique, à une carence dramatique. Dès lors, certains masques centrafricains conservés dans les grands musées occidentaux ne fonctionnent aucunement comme des objets frontières, car d'une part, il y a un déficit d'information en Europe les concernant, et il y a une méconnaissance presque totale de ces objets chez les acteurs rencontrés en Centrafrique. Donc ici, plus qu'un dialogue de sourds, la communication n'a simplement pas lieu. Dans ce contexte, et avec cette volonté d'instaurer le patrimoine en objet frontière, il appelle à la mise en place d'espaces au sein duquel de véritables débats sur ces patrimoines pourront avoir lieu. L'anthropologue devient ici un acteur clé dans la création de ces espaces de débat, un médiateur, un initiateur de connexion entre différents univers ne partageant pas les mêmes registres de savoir et de valeurs. Et pour faire advenir ces espaces, la réappropriation de certains patrimoines, oubliés ou inconnus, est indispensable. Dans le cas de certains artefacts devenus objets d'art en Occident, le pari Bruno Martinelli consiste à envisager une possible réappropriation et resémantisation de ces objets sur les lieux où ils ont été fabriqués. L'objet d'art africain peut-il récupérer une mémoire, écrit-il. À cette question, il répond par l'affirmative en indiquant « La mémoire des contextes rituels initiaux dont l'objet a été dissocié peut, dans certains cas, être encore pertinente si elle est transposée dans le registre patrimonial, c'est-à-dire identitaire, cognitif, éducatif et médiatique. » Il ne s'agit pas ici uniquement de faire rejaillir une mémoire enfouie, mais de permettre une recomposition mémorielle à l'aune des anciens contextes cérémoniels, mais aussi de la trajectoire et du statut actuel de ces objets. Ainsi, écrit-il, une mémoire recomposée peut être mise en œuvre dans le contexte social et intellectuel contemporain, en tirant parti de la valeur artistique de ces objets reconnus au plan international. Cette valeur, au nom d'une esthétique d'origine étrangère, doit permettre de repenser l'objet. Pour finir sur cet engagement et avant de conclure, on voit bien que Bruno Martinelli avait conscience de la nécessité d'une réelle interrogation sur le sens du patrimoine en Afrique, dans la mesure où ce patrimoine met à son programme les expressions modernes et citoyennes de l'identité collective. Dit autrement, c'est parce que le patrimoine relève d'une démarche volontariste de relance, de qualification d'objets, d'activités, visant la préservation ou la reconquête de territoires, souvent par des institutions publiques, qu'il doit retenir l'intention des chercheurs. Dans ses rapports pour l'UNESCO, comme dans son enseignement, il souligne le potentiel danger que l'instrumentalisation des patrimoines recouvre lorsqu'ils servent des propos essentialisants, dans le cadre d'un discours en voyant l'autre, ici l'Africain, à une identité primordiale, et on pense à sa critique du musée du Quai Branly, ou dans le cadre des instrumentalisations politiques du passé et de la mémoire dans des contextes nationalistes. Inversement, il espérait aussi voir le patrimoine comme un réel outil de sortie de crise dans le contexte centrafricain. Ce qu'on avait souhaité dire dans cette conclusion, c'est que la préparation de cette communication a été pour nous très agréable et stimulante, à la fois parce qu'elle permettait qu'on se retrouve, on est chacune sur des territoires et des villes différentes désormais, on ne peut plus avoir de discussions et d'échanges stimulants dans l'agréable bureau de l'Institut des Mondes Africains. Donc, on n'a plus de bureau. Donc voilà, c'était un des moments d'échange agréables, ça nous permettait de faire un bond dans le passé, de revenir sur les échanges et les moments passés avec notre directeur de thèse et sur tous les savoirs qu'il nous a transmis, et c'est dommage que Neva est partie, elle voulait qu'on insiste sur la mauvaise humeur et le caractère difficile de Bruno Martinelli. Je l'avais promis que je rajouterais un mot, donc ça nous a permis aussi de se rappeler tous ces moments douloureux. passer à apprendre à ses côtés, surtout qu'aujourd'hui nous avons toutes les deux la chance d'avoir un poste et donc on ne peut que le remercier de nous avoir fait souffrir, mais aussi mis sur des rails, sur de l'esthétique. Plus sérieusement, en préparant cette communication, en fait, on s'est rendu compte qu'on a soulevé plutôt un ensemble de questions, des questions qu'on aurait aimé en fait partager avec Bruno Martinelli. On a soulevé un ensemble de questions qui sont aussi restées pour nous sans réponse. On voudrait en citer quelques-unes. On sait par exemple que Bruno Martinelli a réalisé énormément de photographies sur le terrain et Sandra Fontello en est témoin. Aider ces terrains sur la forme dans le Yatenga. Et donc ces photos, on se demandait avec Anaïs, cette photo qui constitue un corpus énorme, avait-elle pour unique vocation d'alimenter ses travaux, ou bien avait-il déjà conscience de la disparition, de la transformation des pratiques illégionographiées, et était-il déjà dans une logique de constitution d'archives patrimoniales?
C'est évident.
Oui. Et une autre interrogation par rapport à ça, c'était sur le fait qu'à notre connaissance, il n'est pas écrit sur le rôle de l'anthropologue dans ce processus de patrimonialisation. Donc Anaïs l'a signalé, il avait été particulièrement intéressé par les travaux de Gaetano, et toutes les deux, il nous a fait lire Gaetano très vite, ça a été très compliqué.
Ah,
souffrance atroce, c'est-à-dire que quand tu es en DEA, c'est assez complexe de se lancer dans la lecture des travaux de Gaetano. Non, il avait été très intéressé par tes analyses sur le rôle du legs ethnographique dans la constitution de ces patrimoines. Néanmoins, il n'a pas écrit sur cette thématique. C'est doublement étonnant puisque toutes les deux, il nous a sensibilisés à toute cette réflexion et la nécessaire réflexivité en anthropologie. Donc il y aurait eu un travail vraiment intéressant à faire sur cette démarche patrimonialisante de l'ethnographie. Enfin, on voudrait terminer sur quelques mots d'hommage en notant comme Pascal qui nous a laissé une large autonomie dans nos travaux de recherche, mais qu'à la fois il aura laissé une empreinte aussi bien singulière et plus particulièrement sur cette rigueur et cette sensibilité ethnographique. Si certains dans la salle nous ont souvent vu pester contre lui parce que nous n'arrivions pas à l'attraper, si d'autres ont été témoins des moments de doute et même d'angoisse profonde suite à ces commentaires parfois acerbes, et nous pourrions dire ces commentaires toujours acerbes sur nos propres travaux, nous tenions pour terminer à lui témoigner notre grand respect et à évoquer aussi tout le plaisir que nous avons eu à l'écouter lors de ses interventions et lors de ses séminaires. Donc s'il n'a pas toujours été facile d'apprendre à ses côtés, nous retiendrons sa curiosité, son enthousiasme, surtout lorsqu'il nous parlait des terrains qui le passionnaient. Merci.
Alors, vous voyez, la tendance est lancée.